manque en Formule 1 un certain nombre d'observations qui me semblent absentes du discours de Stefan Venn. Cela dit, il est bien entendu, et je voudrais que ce soit compris ici, il est bien entendu que j'ai rendu compte de ce livre en le résumant de façon peut-être grossière. Les exemples, comme je le disais au tout début, sont nombreux dans ce livre. Stefan Venn n'a pas un discours univoque, toujours homogène. Alors lui-même n'est pas toujours extrêmement catégorique dans ses jugements. Je vous donne un exemple. Il va parler de la chanson des colocs, Tassez-vous de là. Il en parle pour montrer comment elle est inventive sur le plan du rapport entre le beat musical et la scansion même des paroles. Ce qui est tout à fait exact. Son analyse tient le coup. Elle me semble pertinente. Toutefois, on pourrait aussi poser une question à l'égard de cette chanson. On pourrait se demander, mais est-ce que la musique, est-ce que l'impression donnée par la musique concorde avec le contenu des paroles? Si vous avez en tête cette chanson, vous savez fort bien que les paroles sont quand même extrêmement dures. Ça parle d'un individu qui vit des problèmes importants, de drogue, etc. Et alors que la musique, elle, est plutôt optimiste, je dirais. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que j'ai connu quelqu'un précisément qui aimait cette musique, qui la trouvait agréable, chantante, etc. Et jusqu'au moment où je lui ai fait remarquer que les paroles étaient ce qu'on dirait élevées. Et c'est quelque chose qui ne l'avait pas frappé d'emblée. Alors quand il s'est mis à écouter les paroles, il a vu qu'il y avait comme un hiatus entre la proposition musicale et la proposition même des mots. Est-ce que c'est un défaut? Pas forcément. Cet écart-là, ou cette, si vous voulez, voyons, je cherche mes mots, donc cette opposition, ou ce contraste, voilà, ce contraste entre la musique et les paroles, est producteur aussi d'effets. Et puis, ça peut contribuer à la qualité de la chanson, mais en d'autres circonstances, si on prend d'autres exemples, on verra que c'est un défaut. Alors, si la musique ne concorde pas avec les paroles, ça ne fonctionne pas. On voit donc par là que ce critère ne peut être retenu comme absolu. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'aucun critère ne pourrait être retenu comme absolu. On pourrait, comme le fait Stefan Venn, avancer que une mélodie est beaucoup plus riche si elle est élaborée, si elle s'étend sur plusieurs mesures, si elle fait apparaître des écarts mélodiques, si la durée de ses notes est variable, etc. Mais le même Stefan Venn, quand même, revient avec l'observation suivante. Il avouera qu'il existe dans certains cas des mélodies ne présentent pas de grands écarts, dont les notes sont presque toutes égales. Il va donner un exemple, la danse à Saint-Dillon de Gilles Vigneault. Et puis il dira que certaines mélodies même sont sur une seule note, mais justement que leur richesse vient non pas de l'écart entre les notes ou de la hauteur des notes, mais bien de l'accompagnement qui, avec ses modulations et toutes ses variations d'accords, apporte la couleur à la seule note qui est chantée. Donc, on voit par là que, finalement, on se retrouve devant du cas par cas, parce qu'il dira que la danse à Saint-Dillon, c'est parfait telle qu'elle est conçue. Ça fonctionne bien avec le propos de la chanson. Et c'est un exercice de style aussi de construire une mélodie recto-tono, mais en travaillant plutôt les arrangements et l'accompagnement musical. Alors, si on est devant du cas par cas, comment s'y retrouver et quels repères se donner lorsqu'on est un critique? Les repères, ils sont là malgré tout. Ils existent. Donc, tout ce que Stefan Venn énonce comme paramètre peut être observé. Et comme je l'avançais un peu plus tôt, il s'agit d'abord de décrire la chanson, de voir comment elle fonctionne et par la suite de voir si tout cela se tient. Vous avez à partir de là, Comment peut-on aller un petit peu plus loin? C'est ce que je vais tenter de faire maintenant. Moi, je crois qu'une critique musicale du côté de la chanson populaire est possible, qui justement dépasserait le stade du commentaire impressionniste. Mais à ce sujet, justement, j'aimerais bien apporter une nuance, parce qu'on pourrait croire que je voudrais m'en remettre à des critères objectifs contre une certaine forme de subjectivité. Il y a effectivement une subjectivité que je rejette, qui est une subjectivité inconsciente de son caractère subjectif. Lorsqu'un critique fait part de ses goûts et qu'il est lui-même, que ses goûts même sont déterminés par des effets de mode, parce que il a un petit peu le flair hein, de ce qui est hot ou de ce qui serait maintenant out. Ça, c'est pas une subjectivité intéressante d'un point de vue critique. Il y a une subjectivité quand même qui doit être prise en considération dans notre approche d'un art populaire comme la chanson. On reçoit cela évidemment ça touche les émotions et ça touche les sensations, les perceptions. Donc forcément, il y a une part de subjectivité, mais celle-ci peut participer au travail critique dans la mesure où elle est interrogée, où le critique tente de nommer les sensations qui le traversent et tente de les partager avec les autres. Donc il y a des critiques qui développent ce langage qui est certes impressionniste, mais à un haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas du côté de simples jugements péremptoires, mais du côté d'une compréhension pour reprendre le terme de Stéphane Venn, du frisson particulier de la chanson. Mais ici encore, c'est, je dirais, assez rare qu'un critique se livre à une telle démarche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On accepte cette part de subjectivité, mais par rapport à ce que disait Stéphane Venn, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait ajouter? Moi, je vais essayer de formuler deux ou trois points pour aller au-delà des simples qualités formelles. J'aime beaucoup l'approche formelle, mais elle n'est pas suffisante selon moi pour amener du côté d'un jugement esthétique. Par exemple, Stéphane Venn néglige certains paramètres comme l'instrumentation, les qualités instrumentales. Selon moi, cette dimension-là a beaucoup d'importance. Durant les années 70, quand s'est développé le rock progressif, on a vu apparaître une assez grande exigence du point de vue de l'exécution. Et puis, et ça, le fait aussi qu'il y ait un développement du côté des instrumentistes, qu'ils deviennent de plus en plus performants, a fait avancer le langage musical du rock. Les compositions sont devenues plus complexes, et puis elles ont tout à coup ouvert tout un horizon. On a dépassé le format standard de la chansonnette de 3 minutes et demie, et on s'est mis à composer des trucs plus élaborés, qui laissaient place beaucoup à des sections instrumentales d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on est encore en présence de chansons à ce moment-là? Pour moi, c'est une question cette question de définition de qu'est-ce qu'une chanson me semble secondaire. Pour moi, l'effet est là. Bien entendu, une pièce comme Tubular Bells n'est pas une chanson, même s'il y a un bout supposément chanté à la toute fin, il reste que c'est une pièce instrumentale. Par contre, que dire de cette autre pièce que j'avais déjà mentionnée un peu plus tôt, Echoes de Pink Floyd, qui dure une vingtaine de minutes et puis qui comporte une première section chantée avec une belle mélodie, suivie d'un long, long passage instrumental. Et on revient à la toute fin, à cette section mélodique chantée. Et pour moi, il s'agit d'une pièce musicale, mais avec aussi, que l'on pourrait dire que c'est une chanson, mais particulièrement élaborée. Ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est que le retour de la mélodie chantée est fort en émotion, précisément parce qu'il y a eu toute cette section instrumentale qui l'a précédée. On pourrait en dire de même aussi de certains solos, les solos de guitare ou de clavier, qui permettent à la chanson de prendre son envol dans plusieurs cas. Prenez la pièce de Genesis, Third of Fifth. C'est une pièce, la section chantée est intéressante, mais il reste que le moment fort de cette pièce-là, c'est le solo de guitare. Et c'est le moment le plus fort en émotion. Et quand ensuite on revient au chant, l'émotion est encore plus grande qu'elle l'était au tout début de la pièce. Donc, on pourrait multiplier les exemples de ce genre. L'autre point aussi sur lequel je m'interroge, et je reviens ici à une observation de Stefan Venn, parce que dans un passage de son livre, Venn s'en prend à la critique, dans les mêmes termes à peu près que ceux que j'ai formulés au tout début de cette émission. Alors, il s'en prend à l'indigence du discours critique dans le monde de la chanson populaire. Et il observe que du côté de la musique classique, toutefois, les critiques font preuve de compétence. Ils assistent à un concert, ils écoutent un disque, les commentaires qu'ils font sont pertinents, reposent sur des données musicologiques. On voit bien à ce moment-là qu'ils ont ce savoir préalable à toute critique de qualité. Venn dit ensuite qu'on ne trouve pas cette compétence chez les critiques de musique populaire. C'est un point à relever. Effectivement, je ne pense pas qu'on exige d'eux qu'ils aient fait des études en musique ou qu'ils sachent même manipuler un instrument. La plupart du temps, j'ai l'impression que ce sont des journalistes, mais qui sont aussi des amateurs de musique, qui aiment particulièrement cette forme d'art. Donc, qui ont le goût aussi d'en parler et de faire part de leurs impressions. Alors, c'est justement en fonction de cela que je fais cette émission, c'est-à-dire que j'aimerais bien, moi, qu'on trouve un lieu où on pourrait parler de la chanson, donc je le répète, de façon intelligente, mais non pas savante au sens, comme on le fait du côté de la musique classique. Et là, je vais tenter de dire pourquoi. Bien sûr, un discours savant sur la musique populaire est bienvenu. Ce discours-là existe, par exemple, dans l'univers anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre. Il existe des livres complets sur le rock et des livres qui présentent des analyses très approfondies. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de lire des analyses, une analyse d'une quinzaine de pages, par exemple, d'une chanson, d'une longue pièce de Yes, Close to the Edge. Une analyse extrêmement brillante qui démontait la structure de la pièce et qui montrait comment son fonctionnement, ses effets de retour, toutes les variations tonales, etc. Donc ça, c'était vraiment une analyse musicologique de cette pièce-là. J'en ai lu aussi sur d'autres chansons de King Crimson. Et donc, ces publications existent aux États-Unis. Curieusement, elles sont inexistante ici. Le livre de Stefan Venn fait exception. Toutes modestes que soient ses analyses, elles sont pertinentes. Lorsqu'il se penche sur une question, il va chercher vraiment le sucre ou l'essence même de sa réussite. Alors, comment faire avancer les choses? Pardon. La chose est difficile parce que dans le monde de la musique classique, il existe des repères très, très précis. La plupart des critiques se penchent sur des productions qui sont en réalité des interprétations. Quelqu'un interprète du Bach ou du Mozart ou du Haydn, et puis le critique sait fort bien où se diriger. Il a toute une tradition qui le précède, et il peut voir un peu comment cette interprétation en particulier diffère des autres, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. On a affaire à de la musique écrite, et une musique écrite qui a entraîné tout un discours philologique aussi, l'accompagnant avec des recommandations pour son interprétation, etc. Alors ici, les critères de jugement sont assez codifiés. Et c'est ce qui permet justement aux chroniqueurs de musique classique de tenir un discours précis sur les productions. Je pense que le chroniqueur de musique populaire est un peu plus désemparé et démuni parce qu'on vient de passer en revue, vous avez vu, un certain nombre de paramètres qui peuvent être utilisés, mais il reste que on est devant aussi une production qui se renouvelle constamment. Et qui aussi répond à une dynamique de renouvellement, précisément. C'est-à-dire qu'on demande aux artistes d'amener du nouveau. Ou encore, on leur demande de faire avancer le discours musical dans certains sous-genres de la chanson. Je reviendrai sur la question des genres un peu plus loin. Donc, il y a une question de génération aussi qui se pose. On est maintenant, on a vécu une quarantaine d'années de rock. On est rendu avec un certain bagage, et puis je dirais que il y a des classiques du rock maintenant, des chansons qui ont été écrites durant les années 60 et qui demeurent, qui continuent de tourner sur certains postes de radio. Donc, effectivement, il y a une forme de corpus hein, qui existe, mais il reste que on a cette impression que la chanson populaire est un phénomène de génération. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque génération a ses idoles. Bien sûr, on peut aimer des idoles du passé. Hein. Des jeunes aujourd'hui vont écouter du Jimi Hendrix, et puis c'est du Pink Floyd. Alors tout ça est possible, bien entendu. Mais il reste qu'il y a des icônes pour chaque génération. Et ça complexifie un peu notre analyse du phénomène. Je vous donne un exemple. J'ai mentionné la période des années 70 avec le rock progressif. Vous connaissez comme moi la réaction qui a suivi, c'est-à-dire l'arrivée à la fin des années 70 du punk. Alors, si on analyse le punk d'un strict point de vue musical, c'est quand même assez pauvre. Et pourtant, ça s'est imposé. Et pourtant, vous ouvrez une encyclopédie du rock, une histoire du rock, on vous parlera des Sex Pistols comme d'un événement marquant. Et on passera sous silence un groupe extrêmement sophistiqué comme Gentle Giant, par exemple. Pourquoi? Personnellement, moi, je suis un peu heurté par ça, parce que mon goût va du côté de Gentle Giant plutôt que des Sex Pistols. Mais sur le plan historique, il est vrai que les Sex Pistols ont davantage marqué que ne l'ont fait Gentle Giant. Alors ici, on a un petit problème, parce qu'on est du côté d'un discours d'ordre historico-sociologique et non pas musical. Alors, on pourrait poser la question, est-ce que les Sex Pistols ont fait des chansons qui sont destinées à demeurer? Il reste que plusieurs leur accordent de l'importance sur le plan historique et même du côté de l'évolution de la musique, parce que des Sex Pistols ont émergé d'autres groupes qui ensuite vont retrouver, dit-on, l'essence du rock après toute cette... tout ce côté pompier qu'on a dénoncé du côté du rock progressif. Alors, c'est sans doute les Sex Pistols qui ont permis à The Police de faire leur apparition, etc. Bon, on connaît ce discours-là. Mais c'est un discours qui me laisse un peu pantois parce que on quitte l'univers de la musique et du discours musical en tant que tel. Mais là, c'est un point de vue de puriste. C'est comme si je m'en remettais aux questions formelles concernant la musique, qualité formelle même des compositions ou des textes et de tout ce qui constitue une chanson en tant que telle. Alors que c'est le geste lui-même qui a son importance ici. Et c'est là qu'on voit que la performance qui est écartée par Stéphane Venn d'emblée, comme n'étant pas pertinente pour la compréhension de la chanson, dans le monde de la chanson populaire, la performance, la manière dont les artistes incarnent leurs personnages, alors tout cela a de l'importance. C'est dommage pour ceux qui souhaiteraient, et j'en suis, si vous voulez, qui souhaiteraient une approche beaucoup plus formelle, je le répète, du phénomène, mais comment peut-on écarter cette chose-là? Lorsque Jean Leloup, dans un geste un peu spectaculaire, brûle sa guitare et change de nom, on n'est pas ici en présence d'un art de la composition de chansons. On est en présence de quelqu'un qui tente de renouveler son personnage médiatique, qui veut rompre avec un certain personnage et qui veut instaurer quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est quand même signifiant. Ça participe même de son geste de création. Pourquoi devrait-on écarter cela hein, de la démarche créative? Il y a aussi, je pense qu'un créateur, peut l'être aussi jusque dans son habillement, dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter. Ah, mais ici, peut-être qu'on dira qu'on est dans un discours romantique. Et j'ai l'impression que Stefan Venn, lui, se situe plus dans une approche classique. Je dis les choses de façon très, très grossière, vous m'en excuserez. C'est l'opposition entre le faire, que privilégie Stefan Venn, et l'être, que privilégient les romantiques. L'art est une expression de l'être et non pas un artisanat, un savoir-faire. Bon. Alors, voilà les choses résumées, hein, je le répète très grossièrement. Alors, j'ai noté cette question de la génération. Je pense qu'il faut en tenir compte. Stefan Venn, en tant que compositeur aussi, a participé d'un état d'esprit. Quand on réécoute ses chansons, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais moi, j'aime écouter les chansons dans leur version originale. Les reprises me touchent beaucoup moins. Pourquoi? Bon, c'est la même musique. La plupart du temps, ce sont des arrangements assez similaires. Parce qu'il y a un petit quelque chose qui passe dans la voix, des enregistrements originaux. Il y a un quelque chose, un je ne sais quoi, hein, qui me touche, et c'est peut-être en fait ma mémoire de la chanson et tout ce qui accompagne cette mémoire-là du point de vue émotif. Il reste que vous remarquerez qu'on est très réticent dans le domaine de la musique populaire, de la chanson populaire. On est très réticent devant les reprises. Il y a eu beaucoup de groupes hommages récemment. Et puis, ils obtiennent un certain succès, certains d'entre eux. Mais il reste que ça crée une gêne parce que on n'a pas l'impression de quelque chose d'authentique. On a l'impression que ça contribue à... ça dénature le projet même. Et ça... En disant cela, je reviens à cette question de la génération et du rapport entre la production de la chanson et la persona même de l'artiste. C'est gênant même de la part des artistes qui reprennent leur propre succès. Lorsque Roger Waters ou Pink Floyd, les trois autres membres de Pink Floyd, reprennent Dark Side of the Moon intégralement en spectacle, on peut... vivre un peu de nostalgie, trouver ça bien, l'interprétation est magnifique, et ce sont eux, c'est leur création. Et pourtant, il y a quelque chose qui sonne faux dans tout cela. Pourquoi? Pourquoi peut-on répéter depuis 200 ans, 250 ans, Mozart ou Beethoven, et avec toujours cette impression de les redécouvrir, alors que ce n'est pas le cas avec le rock, comme si les productions rock étaient, ou les productions de chansons populaires étaient inscrites dans le temps. Alors, c'est une question que je soulève. L'autre question qu'il faudrait examiner aussi, qui est absente dans la réflexion de Stefan Venn, c'est la distinction entre les genres. La chanson, c'est très, très large maintenant. Dans les années 40, 50, la chanson française avait sa tradition. On la reconnaissait entre toutes. Les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là. En France, au Québec, on s'est mis à intégrer toutes sortes de styles. Les genres, il y a plusieurs étiquettes qui sont apparues. C'est malheureux. Stefan Venn s'en prend aux étiquettes et surtout à la manie des critiques de faire leurs commentaires musicaux à partir de catégories qui sont bonnes pour les marchands de disques. Je suis d'accord avec lui. Toutefois, il faut prendre en considération quand même la question du genre, parce que il y a des genres qui ont aussi leur propre tradition, et on ne peut pas, pour reprendre l'expression habituelle, comparer des pommes et des oranges. Je trouve ridicule, moi, qu'on mette en opposition, par exemple, Céline Dion avec Malajube. Ils sont dans deux secteurs de la chanson complètement différents. Ils ont des publics différents. Ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas du tout la même intention qui est derrière ce qu'ils font. Bon, premièrement, Céline Dion est une simple interprète, alors que Malajube veulent renouveler le discours musical. Déjà, on est en présence de deux phénomènes différents. Mais même si on comparait des groupes comme Malajube avec un groupe reggae, par exemple, bon, Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser les mêmes critères pour parler de l'un et de l'autre. Premièrement, les genres déterminent un public et déterminent aussi, ce qui est encore plus important, des différentes manières de vivre les chansons. Sur le plan musical, on peut trouver le discours, par exemple, dans la chanson qui répond à des genres très, très codifiés, comme la samba ou certaines pièces latino ou un cha-cha. Bon, on peut trouver le discours musical limité, même le rock and roll, c'est très, très répétitif. Alors, le blues aussi, c'est assez répétitif, merci. On peut trouver que ça, c'est limité, mais ici, dans tout ce que j'ai nommé, tout ce que j'ai nommé entraîne une attitude différente. Il y a certaines personnes qui aiment la danse sociale et qui donc vont aimer ce genre de chansons latino ou autres qui leur permettent de danser. D'autres, plus oisifs, qui ont du temps devant eux, vont aimer les longues plages de musique progressive et s'affaler dans un divan et puis rêver en écoutant ça. Ça les transporte ailleurs, ça suscite l'onirisme, etc. C'est une autre façon de vivre la musique. Alors, chaque genre appelle non seulement son public, mais aussi l'attitude qui lui correspond. Prenons le reggae, par exemple. Est-ce qu'on peut considérer de la même façon un reggae composé par Bob Marley, qui lui-même incarnait le reggae, le vivait? Pour lui, c'est une philosophie de vie. Est-ce qu'on peut comparer ce qu'il faisait avec des chansons reggae composées par Charlebois ou par les Colocs ou par Ariane Moffat? Pour qui c'est simplement une forme musicale qu'ils reprennent et puis qui s'intègre à tout un ensemble très diversifié. Alors vous avez un peu de latino, un peu de reggae, un peu de rock, heavy metal, etc. Vous composez un disque comme ça. Moi, je prendrais en considération davantage la notion de genre qui est associée à une intention et qui est associée à un usage aussi. Bon, alors, que dire de plus? Oui, une dernière chose. Il faut aussi examiner la production d'ensemble d'un artiste. Stéphane Venn insiste sur une approche de la chanson, chacune étant prise individuellement. Je le veux bien, c'est très intéressant parfois de s'arrêter sur une chanson en particulier. Je trouve que les critiques ne le font pas assez. Ce qui est signifiant aussi, c'est de voir l'évolution d'un même artiste. Certains artistes n'ont pas produit de chansons, disons, éternelles, des chansons qui ont rejoint leur public, un public de masse, des chansons que tout le monde connaîtrait, mais il reste que leur production présente, dans son évolution même, quelque chose de signifiant. On les voit avancer, raffiner leur art, et je pense que tout cela aussi mérite d'être observé et analysé. Alors voilà, ça termine un peu ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai assez parlé. J'attends maintenant vos réactions. J'aimerais bien savoir si vous avez des propositions à faire. La question étant, comment pourrait-on faire en sorte que le discours critique sur la chanson populaire soit mieux articulé, plus élaboré, plus intelligent, plus nourrissant. Alors, voilà la question qui est posée. J'ai tenté, à l'aide de Stéphane Venn, de mettre de l'avant un certain nombre d'aspects qui peuvent être observés. Je n'arrive pas à des conclusions fermes, permettant donc de produire un jugement. Seulement, je pense qu'on a installé donc un certain nombre de données à partir desquelles quelque chose peut être pensé. Et c'est ça qui compte. Comment arrive-t-on à penser et à nommer ce qui se produit dans une chanson? Est-ce qu'il est possible aussi dans la critique, étant donné que lorsqu'on écrit, on ne peut pas faire entendre une chanson, est-ce qu'il est possible donc de décrire une chanson dans un article? C'est une question importante aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, les chroniqueurs s'en remettent à des commentaires plus généraux, hein, ne se penchent pas sur une chanson en particulier pour la décortiquer. Ça les entraînerait du côté un certain métalangage musical qui peut dérouter le lecteur des quotidiens. Si on se donne pour but de fonder une critique qui serait un peu plus élaborée, est-ce qu'on doit accepter le caractère austère de ce genre de commentaires? Je pense que là-dessus, on peut s'inspirer de Stéphane Venn. Il a bien réussi, en des mots assez simples, à traduire ce qu'il appelle le frisson des chansons qu'il analyse, à montrer qu'est-ce qui en fait la particularité. Ça pourrait être un modèle à suivre de ce point de vue. Bon, alors voilà, je termine ici ce discours. J'attends vos réactions et puis, entre-temps, je vous souhaite de bons moments musicaux, de bonnes écoutes, vous procurant plein de belles sensations. Au revoir.